Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En République démocratique du Congo, le niveau de l'enseignement est en baisse au niveau secondaire, primaire et maternel. D'après les spécialistes, le manque de recyclage des enseignants serait l'une des causes. Cependant, certaines écoles organisent des sessions de recyclage pendant les vacances sur l'intention des instituteurs de l'école primaire et maternelle. Quelle est l'importance du recyclage? Comment cela doit se faire? Odon Boulanda, vous êtes expert en éducation. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, quel est l'intérêt du recyclage des enseignants, surtout pendant les vacances?
Avant toute chose, j'aimerais vous saluer personnellement, saluer tous les auditeurs de la Radio Capi. Pour revenir à votre question, le recyclage, c'est quelque chose d'important. Parce qu'avant de mieux comprendre ce terme, il faudrait d'abord partir qu'il s'agit de formation. En ce qui concerne la formation, puisque nous parlons des enseignants, il faudrait remonter la formation à deux niveaux. Il y a d'abord ce que nous appelons la formation initiale. Puisque vous parlez de la maternelle du primaire, la formation initiale, c'est la formation qui est acquise au niveau des humanités pédagogiques. Donc, l'enfant qui entre dans la section pédagogique a déjà la formation initiale. C'est cette formation-là qui le rend capable d'exercer la fonction enseignante. Maintenant, dans le processus de sa carrière, ce qu'il a eu au niveau de l'école devra être actualisé. Devra être complété par la formation continue. Alors, le recyclage pour nous, nous pouvons l'inscrire dans le cadre de la formation continue. Pourquoi cette formation continue? Parce que vous avez parlé de l'opportunité. Nous disons que la formation continue procède à un renforcement de la formation de base avec de nouvelles capacités qu'il faudra avoir. Voilà. Donc, il y a aussi, aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, il y a de nouvelles approches qui sont édictées. Alors, la formation que nous avons reçue, initialement, doit être complétée par d'autres formations. Voilà la nécessité de pouvoir organiser des recyclages pour les enseignants.
Et qui doit organiser ça? Chaque école doit le faire ou c'est le ministère qui s'en occupe?
Bon, dans le cadre de la formation, il y a ce que nous appelons... D'abord, il y a des services à titrer au niveau du ministère qui sont chargés de la formation. Il y a notamment le service national de la formation, ce que nous appelons le CERNAFOR. Il y a aussi d'autres formations initiales qui sont édictées par certaines directions qui conçoivent, par exemple, le programme. Vous avez la direction des programmes scolaires et matériels didactiques. Vous avez la direction de l'enseignement spécial. Vous avez la direction de l'élève. Ces différentes directions ont des matières précises. Thématiques sur lesquelles on peut assurer d'abord, dans un premier temps, une formation initiale aux inspecteurs au cadre de l'FSP, et eux, à leur tour, vont maintenant assurer des formations auprès des écoles. Donc, c'est ce que nous appelons nous, des formations en cascade. Donc, il y a d'abord un noyau au niveau national, il y a des noyaux au niveau provincial, et aussi des noyaux au niveau local, c'est-à-dire au niveau des sous-divisions, au niveau des coordinations, et qui peuvent se relayer jusqu'au niveau des écoles.
Et pour les écoles privées, par exemple, qui doit organiser ces formations, les enseignants?
Les écoles privées doivent s'aligner d'abord aux structures officielles, parce que les enfants qui sont dans ces écoles privées ne sont pas des enfants privés, ce sont des enfants de l'État. Ce sont des enfants qui appartiennent à l'État congolais. C'est ainsi que les écoles privées qui trouvent la nécessité d'organiser des formations doivent se référer aux services techniques, parce qu'on ne peut pas assurer n'importe quelle formation. Il y a des thèmes qui sont déjà développés au niveau du ministère qui permettent à ces écoles-là de pouvoir former ou recycler leurs enseignants pendant les vacances.
Voilà, mais est-ce que les enseignants ne vont pas aussi en vacances?
Justement, là vous abordez déjà la périodicité, quand faut-il organiser ce recyclage? Idéalement parlant, il faut reconnaître que pendant la période de l'année, nous avons un programme qui est déjà classé en termes de calendrier scolaire. Donc, toutes les activités sont liées intimement pour permettre à ce que le programme soit respecté. Il est aussi difficile de dire, pendant toute une période donnée, on suspend les enseignements pour organiser des formations. C'est ainsi que, sous le plan idéal, il est mieux que cette formation se fasse pendant les vacances. Mais pendant ces vacances aussi, il y a des contraintes. Vous savez, les enseignants doivent ne pas avoir leur congé. Ça, c'est une question. Donc, il faudra voir comment.
C'est surtout qu'ils ne sont pas aussi payés. Il semble qu'il y a certaines écoles privées qui les abandonnent.
Oui, beaucoup d'écoles privées ne payent pas pendant les vacances, ça c'est vrai. Mais même au niveau de l'officiel, vous savez que la période de vacances a d'autres réalités. Dans les campagnes ou dans les milieux plus lointains, il y a des enseignants qui profitent de ces vacances pour faire aussi leurs activités, des commerces ou bien des travaux, des campagnes, et ainsi de suite. Alors, c'est question de voir maintenant comment harmoniser les temps pour que, du même moment qu'ils aient un petit temps de vacances, et un autre temps aussi pour se recycler. Ça, c'est vraiment nécessaire. Vous savez qu'au niveau de l'enseignement, il y a des cas qui arrivent, il y a des décès que nous enregistrons, il y a aussi des mutations, et ainsi de suite. Ce qui arrive au niveau des écoles doivent, de temps en temps, s'adapter aux nouvelles approches, aux nouvelles techniques d'enseignement. Et c'est comme ça que, vraiment, pendant les vacances, disposer de quelques temps, c'est nécessaire pour connaître ces recyclages.
Et ça peut se faire pendant combien de temps? Un mois, deux, trois semaines?
Bon, ça dépend du module. On ne peut pas avoir de formation d'une école plusieurs jours. Il y a des modules, bon, l'idéal pour nous, nous voyons, c'est que la plupart des modules qui sont produits pour la formation, on a au moins six jours de formation. Et on prend un module avec plusieurs thèmes. Et les thèmes sont développés par rapport à la thématique qui est voulue. C'est ainsi que, bon, je voulais aussi parler de quelques, en termes d'exemple. Nous avons, par exemple, pour les enseignants du primaire, l'utilisation et l'exploitation du programme national. Il y a des écoles qui ont le programme, mais beaucoup d'enseignants ne savent pas comment exploiter ce programme. Il y a aussi un autre thème, par exemple, l'exploitation des manuels scolaires. Il y a certains qui vous disent, j'ai un manuel scolaire, mais je ne sais pas l'exploiter. Vous êtes intellectuel.
Mais il y a souvent, ces manuels sont, il y a souvent des guides. Il y a les livres pour l'élève et un livre pour l'enseignant.
Justement, quand on produit un livre, le ministère exige à ce que l'auteur puisse aussi présenter un guide. Mais malheureusement, pour les enseignants, il faudra qu'ils soient conformés dans l'utilisation des manuels. C'est ainsi qu'au niveau du ministère, nous avions même produit un module sur l'utilisation du programme national. Et le même module contient aussi les procédures pour l'utilisation de n'importe quel manuel. Donc à ce moment-là, les écoles qui ne savent pas le faire ont besoin de recevoir des matières. Si vous avez parlé des écoles privées, mais ces écoles-là, au lieu de pouvoir se mettre de manière isolée, peuvent voir par rapport au ministère quels sont les thèmes qui sont déjà développés et les aider à pouvoir travailler correctement. Nous avons aussi la préparation, la conduite des leçons. Mmh. Il y a des nouveaux enseignants qui arrivent. Il faudrait les aider à comment préparer, comment animer des leçons. Nous avons la gestion d'une classe. Ça, c'est un module aussi important. Et quelque chose aussi de spécifique, un module sur l'éducation au risque des mines et des explosifs de guerre. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, ici, il y a des guerres. Et là-bas, il y a des situations de conflit qui se passent. Mais maintenant, après ces guerres, il y a des engins qui sont abandonnés. Donc, le ministère a produit aussi un module qui doit aider la population à lutter contre ces risques-là. Donc, ça, c'est à titre purement illustratif. Mais
donc, si vous pouvez reprendre, vous avez parlé de la gestion d'une classe.
On parlait de la gestion d'une classe.
L'accueil des élèves.
L'utilisation exploitation. Dans la gestion d'une classe, on voit comment un enseignant peut organiser d'abord ses enseignements, comment être avec ses élèves, les dispositions à prendre, comment il doit, quelle attitude doit-il adopter par rapport à ses enseignants, par rapport à ses élèves. Donc, c'est tout un module qui donne toute une série de matières pour aider l'enseignant à accéder nécessairement à ses enseignements, à faciliter l'apprentissage pour les élèves.
Nous avons un auditeur en ligne, Boniface Gentil, il est à Calémy, et un autre, Andrito, il est à Roux, dans la province orientale. Boniface, bonjour.
Ah, bonjour, M. Jody.
On vous écoute.
Je voulais demander à les idées. Cette formation se fait combien de fois pendant la période des vacances? Et une autre question, je voulais demander si un enseignant peut prendre les élèves pour les faire cultiver dans son champ. Et la troisième question, parce que ici, moi, j'ai étudié un peu au village, hein, là-bas au village, maintenant, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Vous allez voir, les enseignants prennent les enfants, ils partent avec au, village, au champ, ils cultivent pendant le matin jusqu'à même à 14h. Et c'est comme ça que ça fait se faire.
Merci, Boniface. Andrito, depuis Yarou, bonjour.
Ah bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Il est vrai que le niveau de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel, supérieur ou universitaire est au rabais dans notre pays. Cette initiative de recycler les enseignants est bonne et que cela soit à tout niveau. Mais monsieur le journaliste, sur l'horaire de l'école primaire, il y a une mention.
Laquelle? Un micro? Désolé, il y a sûrement un problème au niveau du réseau. Andrito, veuillez nous rappeler, vous avez suivi votre question. Alors, donc, vous avez suivi le premier intervenant Boniface qui dit combien de fois il faut organiser les recyclages. Et puis, il parle de certains enseignants qui vont au champ et puis qui amènent les élèves.
Et merci Boniface pour le nombre de fois de formations organisées. Moi je dis que c'est par rapport aux thèmes de modules qui sont développés. Lorsqu'on dit, bon, un module par exemple sur l'utilisation du programme ou des manuels scolaires en général par exemple, ça peut prendre une semaine. Donc vous avez 6 jours de formation. Et après ces 6 jours-là, lorsqu'on constate qu'il y a une nécessité, qu'il faudra aborder un autre thème, on peut aussi organiser une autre formation par rapport au thème. Mais dire d'emblée pour dire que vous devez être respecté autant de fois, c'est un peu difficile de répondre.
Donc, il y a aussi une part de l'enseignant lui-même, c'est souhaite quelqu'un qui veut mettre son savoir à jour.
Oui,
qui doit lire,
qui doit faire
des recherches.
L'enseignant doit faire des recherches. L'enseignant ne doit pas seulement se contenter de ses notes, il doit savoir lire. Aujourd'hui, nous avons parlé de la mondialisation. Il y a des données qui sont disponibles à l'Internet. Il y a aussi des recherches qu'on doit faire. Donc, il ne doit pas seulement s'arrêter à ce qu'il est, ce qu'il connaît par rapport à ce qu'il a eu.
Il y a 60 ans, l'enseignant, vous le trouvez, son vieux cahier.
Oui.
Des leçons qui datent de 10 ans, depuis les 10 ans.
Oui. C'est
le même document.
Même sur le plan des approches, beaucoup de choses sont en train de changer. Au départ, avant de répondre d'abord à la question de Boniface, je pense qu'on commence d'abord par là. La question des enseignants qui utilisent les élèves pendant les vacances dans le champ, ça c'est déjà prohibé. Je pense qu'une fois nous l'avons déjà dit ici, au cours d'une de nos émissions, que l'enseignant ne peut pas utiliser les enfants pour leur compte personnel. L'enseignant sera seul responsable de ce qui adviendrait lorsque l'enfant va connaître une situation catastrophique ou désastreuse au niveau
un accident.
La voiture ne sert pas, il y a des blessures, tout ça. Ça, c'est prohibé. Donc, ce n'est pas autorisé à un enseignant de le faire. Donc, M. Boniface, ça, c'est déjà une question qui est déjà tranchée par le ministère. On ne peut pas accepter qu'il y ait des travaux champêtres supportés par les enfants. Alors, par rapport à la formation, comme nous l'avons dit, l'enseignant doit se recycler. L'enseignant doit comprendre que en dehors de ce qu'il connaît déjà, il doit aller au-delà, faire des recherches. Vous savez, M. Daniel, au niveau de notre enseignement, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui sont en train d'être réformées.
Lesquelles, par exemple?
Nous sommes partis, par exemple, pour notre programme. On avait une liste de matières. On vous dit, dans telle classe, voici les matières qu'il faudra donner. Mais de cette liste de matières, on est passé à l'approche de la pédagogie par objectif. Pourquoi devons-nous enseigner telle matière? Il ne suffit pas de dire, en telle classe, vous allez enseigner en mathématiques ceci, en géographie cela, en histoire ceci, ceci. Mais il faudra qu'on comprenne pourquoi doit-on enseigner. Et cela recherche, quel objectif. C'est là où nous avons introduit l'approche de la pédagogie par objectif. Mais est-ce que l'objectif seul suffisait pour qu'on arrive à trouver ce qui est comme objet de l'apprentissage? Non, on est passé encore à rechercher des compétences. Il faudra que l'enfant soit capable, à l'issue de son enseignement, de pouvoir dégager telles compétences. Et aujourd'hui, nous sommes, donc on est passé des PPO, hein, l'approche par pédagogie par objectif, nous sommes passés par l'approche par compétences, et au moment où nous parlons, nous sommes en train d'expérimenter une autre approche, où nous disons l'approche par des situations. Donc, mettez les enfants dans une situation, lorsque l'enfant sera capable de résoudre le problème auquel il est confronté, à ce moment-là, disons, cet enfant est compétent, et cet enfant a réalisé l'objectif qui était assigné au départ. Donc voilà un peu. Mais l'enseignant qui reste dans son vieux cahier ne saura pas comprendre tout ça. Donc il y a nécessité de pouvoir soutenir le ministère dans tout ce qu'on est en train de faire sur le plan de la formation.
Alors s'il y a des écoles privées, par exemple, qui ont besoin de formateurs, ils doivent s'adresser à qui exactement?
Il y a des services, il y a des sermaphores, il y a les directeurs de programmes. Donc, là où il y a
dans toutes les provinces, ce service existe.
Ce service existe. Nous avons parlé des cascades, c'est-à-dire des services au niveau national, au niveau provincial et au niveau des coordinations, des subdivisions, au niveau des pôles. Ce sont des services qui existent bel et bien.
Les questions de préoccupation, composez le 081-890-6394. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi, samedi dimanche de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Pourquoi est-il important de recycler les enseignants? Deo Ngoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Deo Ngoy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais vous dire ma préoccupation.
Oui.
Ma préoccupation est la suivante.
On vous écoute.
Oui. Ah, il y a un problème, monsieur le journaliste. Oui. Là, notre gouvernement a établi le programme national, sinon pas de manuel approprié. Alors, moi, je suis professeur au groupe Scott-Christ-Roi. Alors, je vais poser une question. Pourquoi établir quelque chose qui n'a pas de programme?
Ouais, vous dites que le gouvernement a établi un programme, mais il n'y a pas de manuel.
Oui. Alors, c'est ça ma préoccupation. Alors, oui, il n'y a pas de manuel.
D'accord, merci.
Alors, je demande à l'auditeur de me répondre. Parce que jusqu'à présent, le programme de 2005, il n'y a pas de matériel de support. Oui, alors, je me demande. Alors, comment on va continuer dans ce sens-là? Comment l'État a élaboré, mais il n'y a pas de support. Alors, comment on doit donner un enseignement de qualité?
Alors, Deos Angoy, dites-nous, comment vous faites pour enseigner vos élèves, par exemple? Oui, Deos?
On se remercie beaucoup. Alors, pour enseigner, on fait des tours ça et là pour avoir du support à l'Internet, soit consulter des ouvrages ça et là, entrer en contact avec les amis d'autres institutions scolaires.
Merci. Odo Moulana.
Oui, merci beaucoup, M. Dongoï,
qui est un enseignant. Hein,
oui, qui est un enseignant, mais je comprends aussi sa difficulté. Quand il dit le gouvernement met à la disposition un programme, mais sans manuel. Alors, c'est aussi une information pour lui donner qui doit élaborer un manuel scolaire. Les rédacteurs du manuel scolaire, ce sont des auteurs. Même Ringo, il peut écrire un manuel. Ce manuel-là va être déposé au niveau de la direction de programme. La direction de programme va l'examiner, essayer de voir la conformité des matières qui sont là par rapport au programme. Et c'est comme ça que le manuel sera agréé et mis à la disposition au niveau des écoles. Alors, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de manuel...
Ce manuel-là doit passer d'abord par le ministère.
Par le ministère.
Qui va l'adopter et l'accepter.
Ok.
Et il faut le vulgariser.
Vulgariser. Donc, au moment où nous parlons, c'est peut-être une difficulté à son niveau. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit. C'est chaque jour, presque, on reçoit des manuels. Mais ces manuels-là doivent d'abord être examinés et puis renvoyés au niveau des écoles. Et je peux lui donner l'exemple de manuel distribué dernièrement par par ce niveau de la Banque mondiale comme la CTB. Ce sont des manuels qui ont été rédigés par des auteurs congolais et ces manuels ont été déposés au niveau du ministère. Le ministère a mis en place une équipe technique qui a examiné, étudié les manuels et passé à son agrément. Donc, Ngoï.
Mais vous avez suivi, il dit qu'ils n'ont pas, là où il est dans l'école où il enseigne, ils n'ont pas de matériel.
Bon, je ne sais pas, il parle de quel niveau, parce que je sais que le manuel, de la première jusqu'en sixième primaire, le manuel de mathématiques et français ont été distribués gratuitement dans toutes les écoles.
Non, mais il y a certains manuels qui disparaissent et qui se retrouvent au marché ou qui prennent une autre destination.
Oui, justement, c'est ce qui est d'ailleurs condamné, parce que même quand vous lisez sur ce manuel-là, il est déjà écrit dans tel et
à ne pas vendre.
Donc, ça, c'est un problème de gestion des individus. Mais par rapport au ministère, un effort est déjà réalisé. Donc, c'est l'information que je voulais insister pour mon frère Dion Goy, que toute personne, tout intellectuel, est autorisé à écrire des manuels. Et ces manuels doivent suivre une certaine procédure pour leur agrément. Donc, c'est l'information. Ils n'attendent pas que le gouvernement puisse disponibiliser seulement tous les manuels, mais nous demandons aussi l'effort de tous les Congolais de pouvoir rédiger des manuels qui puissent refléter la réalité congolaise tout en s'adaptant au contexte de la mondialisation.
Il nous a dit d'ailleurs qu'il fait des recherches, j'ai posé la question de savoir comment il fait, il va voir les amis, il va sur Internet pour avoir des informations.
C'est déjà une très bonne chose. La question de voir maintenant ce qu'ils ont comme information, comment les comparer avec ce qui se trouve dans nos manuels.
Voilà, des questions de préoccupation composées du 081-890-63-94. Donc, monsieur Hidon, à quoi est-ce que la question est de savoir en quoi est-ce que le recyclage est important? Vous avez dit que c'est pour mettre à jour, actualiser les connaissances des enseignants.
Oui, et les adapter aux nouvelles approches qui sont dégagées au niveau du ministère.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait on dit que le manque de recyclage est l'une des raisons de la baisse du niveau de l'enseignement dans notre pays. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème?
Merci, c'est ce que j'allais d'ailleurs vous dire. Au niveau du ministère, il y a déjà des mécanismes qui sont déjà mis en place dans les écoles. Vous savez que dans les écoles, nous avons ce qu'on appelle des cellules de base. Donc, il y a les unités pédagogiques. Lorsqu'on prend les enseignants d'un même degré, vous avez, au niveau de l'école primaire, nous avons trois degrés. Le premier degré comprend la classe de première et celle de deuxième. Le degré moyen comprend la classe de troisième et quatrième. Et le degré terminal, la classe de cinquième et sixième. Maintenant, au niveau de chaque degré, il y a un responsable des enseignants, que nous appelons le chef d'unité pédagogique, qui doit travailler avec les collègues de ces degrés-là. Ensemble, ils doivent travailler sur les difficultés qu'on rencontre dans la formation. C'est ainsi qu'à la fin de chaque semaine, chaque école est appelée à organiser les activités de CERNAFOR, donc le service de formation, comme je vous l'ai dit.
Mm-hmm.
Dis-moi, est-ce que cela est
appelé à la fin de chaque semaine?
Chaque semaine.
Pour évaluer un peu.
Pour évaluer les difficultés qu'on a
rencontrées.
Oui, par degré. Mais maintenant, la question que nous nous posons, est-ce que chaque école fait-elle ce travail-là?
Bien, on va y revenir. Le temps d'accueillir un Thierry qui nous appelle des Kananga dans la province du Kassai occidental. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je vous salue tous l'invité du jour. Ma question est la suivante, surtout sur le cas de recyclage en adaptation avec toujours les approches nouvelles. Moi, je voudrais demander si vous avez une question. Ils nous disent que parfois, c'est plus toujours le fait de recycler les enseignants de façon qu'ils en soient un peu une bonne formation. Et des fois, sinon, si nous parlons du niveau 1, parfois, on parle de l'école primaire, parfois premier degré, deuxième degré et troisième, il y a des enseignants, lesquels aussi sont toujours aussi engagés, sans en tout cas une grande formation, sans de capacités, sans de compétences, je dirais toujours, en tout cas, de l'enseignement ou de la pédagogie. Ils ne peuvent même pas totalement toujours supporter, parfois aller dans la ligne de bonne conduite, de façon qu'on puisse relever le niveau des enfants. Et il y a de certains gestionnaires, peut-être les directeurs, parfois les professeurs des écoles, qui ne donnent même pas sur l'aspect de bien continuer, qui a un suivi totalement absolu, de façon que ces enfants puissent continuer à acquérir des connaissances, puissent aussi en avoir toujours avec leur certitude. Moi, je vous demanderais sinon, vous allez me dire ceci, que le recyclage doit être dit pour le formateur. Aussi pour le directeur des écoles, des étudiants des écoles, aussi surveiller à cela. Parce que vous avez entendu que vous parlez aussi qu'à chaque fin de la semaine, qu'on puisse faire l'évaluation, voir dans les unités pédagogiques, celui qui est chargé pour voir permettre ce qu'on a fait réellement, de façon qu'on puisse relever le niveau des enfants. Je vous demanderai aussi toujours de donner une position aux gestionnaires, de façon qu'on puisse aussi toutefois avoir l'idée de bien rehausser le niveau des enfants. Toutefois, quand il y a toujours parfois des réunions pédagogiques, des rencontres, pour voir réellement ce qui est mis dans les rencontres-là. Marche de pair avec le programme national, marche de pair avec le volume de la nation, marche de pair avec ce que les enfants peuvent aussi trouver, de façon que la nation puisse y avoir l'accroissement ou bien parfois le progrès prochain temps.
Merci Akire de Kananga. Kabemba, vous êtes à Kolozi, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Kepa Kabemba, je suis à Kolozi, bonjour à tous les auteurs de la radio Kati et à notre invité.
Quelle est votre question?
Je voudrais poser ceci. Moi, j'avais fait l'humanité pédagogique. En quatrième, quand j'étais encore élève, en quatrième des humanités, on nous avait envoyé dans une école pour assister à l'assistance. En cinquième, on avait fait une semaine de stage. En sixième des humanités, on avait fait au moins trois semaines de stage. Puis le nombre dont nous étions, j'avais au moins enseigné dans tous les degrés et des leçons dans chaque degré. Alors, je vais poser maintenant ma question. Si l'invité peut nous orienter, se projette déjà l'avenir, voir comment ils pourront aussi commencer à recruter aussi nous qui sommes les pépinières de l'enseignement, de nous recycler aussi des fois, pas seulement recycler des enseignants qui sont vraiment dans la carrière de l'enseignement, et nous aussi les futurs qui pourront être bien encadrés. Notre jeunesse, et bien de nous recycler aussi afin que nous puissions être aussi peut-être éligibles à la langue dans une vie aussi scolaire. Parce que je crois que depuis qu'on avait terminé, nous sommes oubliés, on s'occupe plus de nous. Je ne sais pas ce qu'il pourra dire si ils ont vraiment cette optique-là de faire un peu les choses.
Merci Kabemba de Kolozi, Odo Moulanda.
Oui, merci beaucoup. Merci Pierre à Kananga. Ce que vous venez de dire, c'est en fait pas une question, mais c'est une grande contribution. On se voit que le gestionnaire des écoles a un problème aussi important à résoudre, notamment l'affectation des enseignants qualifiés. Parce que ce que vous évoquez là-bas, c'est par rapport à ceux qui ne sont pas si qualifiés, mais qui sont engagés au niveau des écoles. Donc, il revient donc aux gestionnaires de pouvoir tenir compte.
Tous ces gestionnaires sont des pédagogues ou des businessmen, des commerçants,
donc,
des hommes d'affaires.
Sur le plan de l'enseignement, je pense qu'il faut être honnête à reconnaître qu'on ne peut pas prendre n'importe qui à le mettre comme gestionnaire. La plupart, c'est ceux qui ont une connaissance sur le plan pédagogique. Bon, évidemment, il y a aussi, pour ce qui concerne les confessions religieuses, il y a d'autres considérations aussi. D'ordre religieux, on peut dire des ordres religieux, on dit, bon, tel est nommé coordinateur selon leur considération. Mais de manière générale, la personne doit avoir une connaissance sur le plan pédagogique pour gérer les écoles.
Alors, les gestionnaires, c'est le préfet ou
non, les gestionnaires, ici, quand nous parlons des gestionnaires, nous avons.
Les promoteurs, non?
Dans les promoteurs, ça, c'est dans le cadre privé. Donc, nous parlons de cas. Il y a d'abord sur le plan laïque, c'est-à-dire non conventionné. Nous avons le province, c'est-à-dire le directeur provincial, vous avez le sous-province, mais sur le plan des confessions religieuses, nous avons des coordinateurs au niveau national, des coordinateurs au niveau provincial, des coordinateurs au niveau sous-provincial. Tout ça, ce sont des gestionnaires d'école. Mais par rapport au privé, ce sont des promoteurs d'école. Ce sont des promoteurs qui doivent maintenant qui engager par rapport à la qualification.
Oui, Pierre nous a parlé, parfois ils engagent des gens sans compétences pour s'occuper des enfants, c'est là le problème.
Ce sont là des problèmes qu'il faudra résoudre, ce sont là des problèmes qu'il faudra éviter par rapport à la qualification, et si nous voulons avoir un enseignement de qualité, il faudra avoir un personnel qualifié. Alors par rapport à ce qu'il a dit, je suis pratiquement d'accord avec lui qu'il faudra un suivi des chefs d'établissement. On ne peut pas former les enseignants sans que le chef d'établissement lui-même puisse s'imprégner de ce travail-là. Sinon, il n'aura pas à faire un bon suivi. C'est ainsi que pour le ministère, quand on organise des formations, on prend d'abord le chef d'établissement et ses enseignants. Donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un puisse parler des gens qui ne sont pas évalués.
Les préfets, les directeurs d'études, tous, ils devraient être recyclés.
Ils devraient être recyclés, c'est tout à fait normal. Alors, par rapport à mon frère Kabemba à Colosie, en nous posant la question, bon, il a travaillé, pendant qu'il a terminé ses études
en pédagogie,
mais jusqu'au moment où nous parlons, il n'a pas encore trouvé d'emploi. Mais je sens encore qu'il a sa vocation et ses désirs de travailler comme enseignant. Ce que nous pouvons lui conseiller, c'est de dire comment trouver ses gestionnaires pour qu'ils soient engagés. Sinon, il serait difficile pour le ministère d'aller répertorier tout le diplômés chômeurs et organiser des recyclages pour eux. Ça, c'est pratiquement une promesse qui ne puisse pas se réaliser dans la pratique. Donc, nous conseillons à notre ami de pouvoir contacter les autorités compétentes pour être affecté comme enseignant et bénéficier aussi des formations qui sont organisées au niveau du ministère.
Pour terminer, quel message vous pouvez lancer aux gestionnaires des écoles, surtout des écoles privées, en cette période de vacances par rapport au recyclage?
Bon, par rapport au recyclage, nous encourageons tous ceux qui veulent renforcer les capacités de leurs enseignants, mais qu'ils les fassent dans les normes, qu'ils les fassent dans le respect de l'organisation du ministère, en se référant aux services techniques spécialisés, pour ne pas donner un travail qui n'aura pas des effets plus tard. Donc, quand je parle des autorités, c'est-à-dire trouver les autorités compétentes, discuter sur les thèmes de formation, cela sera une bonne chose et sera de l'impact sur le travail que nous réalisons ensemble. Et cela pour le bonheur de l'enfant congolais.
Odon Moulanda, expert en éducation, je vous remercie.
Merci beaucoup.